VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 mars 2016 en direct de Washington, Bagassi Koura et Michel Joseph. Voici les titres.
Hier, c'était Super Mardi ici aux États-Unis, Super Tuesday. Des primaires ont eu lieu dans une douzaine d'États.
La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump ont respectivement dominé leurs rivaux.
This has been an amazing evening. We're going to make America great again, folks.
I am so delighted to be here with you. I'm grateful to all of you who voted for me.
Tous les détails et les analyses dans un instant.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Ici aux États-Unis, donc, les urnes ont livré leur verdict, du moins ce qui concerne les votes de ce Super Tuesday, ce mardi crucial pour les primaires américaines qui ont eu lieu dans une douzaine d'États.
Premier constat, la route vers l'investiture, Bagassi, pour la présidentielle, semble désormais grande ouverte pour Donald Trump, côté républicain, et Hillary Clinton, côté démocrate. Ces deux ont largement dominé leurs rivaux lors du Super Tuesday, Super Mardi.
Selon des résultats déjà publiés par les chaînes américaines, Clinton a gagné à Alabama, dans l'Arkansas, en Géorgie, dans le Tennessee, au Massachusetts, au Texas et en Virginie. Son rival Bernie Sanders a lui remporté le Vermont, son état d'origine, le Colorado, le Minnesota et Oklahoma.
Le milliardaire républicain a remporté 5 des 12 états. Trump a gagné l'Alabama, la Géorgie, le Massachusetts, le Tennessee et la Virginie.
Son rival Ted Cruz a lui remporté le Texas et Oklahoma.
Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette journée électorale cruciale? La réponse du professeur Bashir Ndiaye de Columbia University à New York.
Les enseignements sont nombreux. On a vu que ce qui était prévu est généralement passé. Il était prévu que Hillary Clinton gagne gros dans ce Super Tuesday. Et là, elle a gagné gros. Il était prévu également que Trump gagne, et Trump a gagné. Et je crois que les grands enseignements de ce Super Tuesday, c'est qu'il va falloir encore attendre pour que ça se décante totalement, au moins une semaine, je crois.
Et qu'en est-il de l'enthousiasme des électeurs?
Écoutez, les électeurs semblent très enthousiastes. Ils s'inscrivent en masse du côté républicain. Donc le phénomène Trump y est pour beaucoup, je pense.
Vu de l'extérieur, hein, pour ceux qui suivent ces élections depuis l'étranger, ils sont quand même assez étonnés de voir que Donald Trump, qui dit qu'il faut interdire les musulmans ici aux États-Unis, qui dit qu'il faut construire un mur, et bien d'autres propos, que ce soit ce monsieur-là qui soit en tête, en tout cas du côté républicain. Comment on peut expliquer cela?
Écoutez, ça pose d'ailleurs un problème aux républicains, parce que le parti républicain est en train de se demander ce qui arrive à ce parti pour que cet électorat continue à coller encore à Donald Trump malgré ses déclarations incendiaires. Non seulement il y a les déclarations contre les musulmans, les déclarations contre les immigrés, en particulier contre les Mexicains. Il vient récemment d'être hésitant pour savoir s'il voulait ou s'il ne voulait pas du soutien du Ku Klux Klan.
Ce mouvement raciste-là.
Le mouvement raciste, évidemment, qui est tristement célèbre pour avoir lynché des Noirs, qui affirme la suprématie des Blancs, etc., est très excité par la candidature de Trump. Ce qui fait d'ailleurs que les responsables du parti républicain sont venus tous les deux pour démarquer totalement leur parti d'une organisation comme le Ku Klux Klan. Mais c'est vrai que Trump semble continuer à gagner malgré tout, ce qui dit quelque chose sur l'état d'une partie de l'électorat républicain qui n'est pas très encourageant.
Voilà le professeur Bashir Ndiaye de l'Université de Columbia à New York.
Le parti républicain qui espère retrouver la Maison-Blanche après 2 mandats du démocrate Barack Obama est cependant divisé sur la candidature du mania de l'immobilier. Donald Trump, dont les propositions iconoclastes et le style abrasif dérangent.
Vu les résultats de ce Super Tuesday, peut-on encore arrêter Donald Trump? La réponse de James Caesar, il est professeur à l'Université de Virginie.
Difficile, pas impossible, mais difficile. Et qui va le battre? C'est ça le problème, puisque le numéro 2, ce soir, Cruz, son problème, même s'il a gagné à Texas, c'est l'avenir. Où est-ce qu'il peut gagner à l'avenir? Il semble, selon les sondages, qu'il est moins fort que Rubio à l'avenir.
Donald Trump, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait être un problème pour lui?
Ce qui pourrait arrêter, c'est la possibilité qu'il y a une consolidation de toutes les voix contre Trump qui va trouver un candidat. Et c'est peut-être possible, parce que même s'il a gagné toutes les primaires, etc., peut-être qu'il a un plafond de 40 ou 45% de l'électorat républicain, ce qui laisse la possibilité d'un candidat qui pourrait peut-être recevoir une majorité. Mais ce n'est pas certain. Et chaque fois que les experts disent que son plafond est 40 ou 42%, alors la prochaine fois, il reçoit plus de voix. Donc ce n'est pas certain. Mais c'est toujours possible.
Jusque-là, on ne parle que des républicains, mais côté démocrate, Hillary qui prend carrément la tête.
Oui, carrément. Et même quand on regarde, elle a perdu un État à Vermont, mais ça ne compte pas vraiment. Mais ce n'est pas le fait qu'elle a gagné, mais qu'elle a gagné avec des marges énormes. 30% de marge dans quelques États. Et c'est difficile à voir comment Bernie peut vraiment avoir la possibilité de gagner la désignation. Alors qu'il y a toujours les problèmes qu'il y a peut-être avec les enquêtes de l'FBI.
Et Hillary surtout bénéficie du soutien des minorités, hein, surtout les Noirs.
Ah oui, presque 90%. Alors, et ça va continuer. Et aussi, elle est forte avec les Hispaniques. Donc, on met les deux groupes ensemble et ce sera très difficile, même si Bernie a continué à gagner beaucoup de voix parmi les autres. Le pourcentage de l'électorat démocrate qui est noir et hispanique est très fort.
Voilà, c'était donc le professeur James Caesar, professeur à l'Université de Virginie.
L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a dominé dans les États du Sud grâce à une mobilisation des minorités en sa faveur. La plupart des candidats ont passé la soirée électorale en Floride, dans le Sud, un autre État crucial qui est la prochaine étape de ces primaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà la suite de l'actualité, cette fois-ci sur le continent. En Ouganda, Amama Mbabazi, candidat malheureux à la présidence, a déposé hier un recours en annulation du scrutin devant la Cour suprême à Kampala. Le point avec Idriss Fall.
Son avocat Severino Twino Businge a dit avoir finalement réussi à déposer un recours sur des fraudes, les intimidations et des retards dans l'ouverture des bureaux de vote à Kampala. Le principal leader de l'opposition, Kizza Besigye, arrêté plusieurs fois et maintenant placé en résidence surveillée, n'a pas pu en faire autant. Il a été empêché de sortir de chez lui alors que c'était hier la date butoir pour déposer un recours, 10 jours après le scrutin du 20 février. Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu pour un cinquième mandat avec plus de 60% des voix, très loin devant Besigye qui a obtenu près de 35%. M. Besigye avait déjà dénoncé un scrutin frauduleux et appelé au rejet des résultats. Lundi, 7 journalistes qui surveillaient son domicile ont été arrêtés. Depuis le 18 février, policiers et militaires sont déployés en masse dans les rues de Kampala pour empêcher toute manifestation.
Les opérations de recensement général des étrangers vivant au Burundi, petit pays des Grands Lacs africains en crise depuis 10 mois, ont débuté hier à Bujumbura. C'est ce que rapporte le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la police, cité par l'AFP.
Le Parlement sud-africain a rejeté hier une motion de censure visant le président Jacob Zuma, dont le deuxième mandat est marqué par de virulentes attaques de l'opposition qui demande sa démission, des dissensions au sein de son parti et des ennuis judiciaires. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Quatre policiers kényans ont été inculpés mardi à Nairobi pour détention illégale d'ivoire, rapporte l'AFP. Ces policiers chargés de la protection rapprochée des ministres ont été appréhendés dans un véhicule de fonction alors qu'ils tentaient de vendre 5 kilos d'ivoire. Selon Wildlife Direct, seulement 7% des personnes reconnues coupables de ces infractions au Kenya vont en prison. Lancement de la campagne agricole au Cameroun. Selon le ministre de l'Agriculture, Eyebe Aissi, le gouvernement a mis à la disposition des producteurs 25 millions de boutures améliorées de manioc, 400 000 plants d'arbres fruitiers, quelques 22 000 kilos de semences de riz et 1 600 000 plants de bananiers plantains, rapporte l'APA. À l'occasion du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, le président Paul Biya avait invité les jeunes à se lancer dans cette activité. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle, avait-il déclaré, invitant la jeunesse à profiter des programmes de soutien. Le gouvernement burkinabé interdit la vente illicite de carburant, estimant qu'elle constitue un danger public. La vente à la criée de produits pétroliers occasionne souvent des incendies dans les marchés. En outre, à Ouagadougou, 40% des taxis utilisent du butane à la place de l'essence ou du gasoil. Hormis le danger, ceci provoque des pénuries de gaz chez les ménages. Le gouvernement a annoncé des mesures fortes contre les contrevenants.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Oui, bonjour John Lyndon.
Bonjour Bagassi.
Les cas de dopage à Rio directement jugés par le TAS.
Oui, à compter des prochains Jeux olympiques de Rio en août, ce n'est plus le Comité international olympique qui jugera les cas de dopage pendant les Jeux, mais bien le tribunal arbitral du sport. Cette mesure a pour but de rendre le traitement des cas de dopage plus indépendant en le retirant des mains du CIO pour le confier à une division spéciale du tribunal arbitral du sport.
Présidence de la FIFA, Infantino a acheté plus de voix que le chèque. La déclaration est du président de Palerme.
Tout à fait Bagassi, habitué des déclarations spectaculaires, Mauricio Samparini a affirmé lundi que si Gianni Infantino avait été élu président de la FIFA vendredi, c'est parce qu'il avait acheté plus de voix que le cheikh Salman. Le système ne change pas et le nouveau président de la FIFA, le chef des bureaucrates Infantino, en fait partie depuis le début, a estimé le président de Palerme au micro de la radio italienne Radio Bruno. Infantino, 45 ans, a été élu vendredi par 115 voix sur 207 à la tête de l'institution du football mondial, dévançant le cheikh Bahreini Salman bin Ibrahim Al-Khalifa.
Aubameyang, déjà 100 buts de championnat en carrière.
C'est Sky Sport qui dévoile la statistique. Pierre-Emerick Aubameyang a atteint ce week-end la barre des 100 buts en championnat. L'attaquant gabonais a participé à la victoire 3-1 du Borussia Dortmund face à Hoffenheim en inscrivant son 23e but de la saison en Bundesliga. Mais cette saison 2015-2016, Aubameyang, c'est 32 buts en 35 rencontres. L'ancien Stéphanois affole les compteurs et compte d'ailleurs en mettre plus. Depuis donc ses débuts, Aubameyang a inscrit 8 buts en championnat à Dijon, 2 à Lille, 2 à Monaco et 37 à Saint-Étienne en France. Avec Dortmund, il a déjà marqué 51 en 2 saisons. À présent avec vous, Bagassi, les résultats du championnat nord-américain de basketball après les matchs disputés hier soir.
Oui, défaite de Phoenix face à Charlotte, 92 à 126. Les Knicks de New York ne s'en sortent pas face à Portland, 85 à 104, Orlando dominé par Dallas, 108 à 121. Défaite d'Atlanta face aux Golden State Warriors, 62 à 73. Brooklyn a été battu par les Los Angeles Lakers, 69 à 73.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de nouveau avec vous en direct de Washington. Nous passons maintenant au dossier du jour. La Cour constitutionnelle centrafricaine a confirmé hier la victoire de Faustin Archange Touadéra au second tour de la présidentielle. Parmi les dossiers qui attendent le président élu, celui des populations déplacées et des réfugiés. Au micro de Pascaline Magalé, écoutons Faustin Archange Touadéra, le chef de l'État centrafricain.
Beaucoup de nos compatriotes se trouvent aujourd'hui dans ce que communément on appelle ici des ledgers, c'est-à-dire des zones où les déplacés se retrouvent pour se protéger contre l'insécurité ou parfois pour trouver un abri parce que leur réseau a été détruit à cause des événements. Donc nous ne pouvons tolérer que ces compatriotes-là continuent de vivre dans des conditions telles que nous voyons. Vraiment, je sais que c'est difficile, ça demande beaucoup de moyens, mais nous allons nous atteler pour que ces compatriotes puissent retrouver un minimum de confort, qu'ils regagnent leur domicile, soit en essayant d'augmenter le niveau de sécurité là où ils se trouvent, et deuxièmement, de leur apporter un petit soutien, leur permettant de se réinstaller, disons, dans les quartiers où ils étaient avant. Autre chose, il y a les réfugiés. Ceux aussi qui, compte tenu au plus fort moment de la crise, se sont retrouvés donc dans des pays voisins. Je pense qu'en essayant de régler le problème de place interne, ça donnera plus confiance à nos compatriotes qui sont à l'extérieur de pouvoir gagner. Et cela, nous allons traiter avec le ACR et les pays frères qui ont bien voulu les accueillir pour que nos compatriotes puissent retrouver leur pays, en tout cas ceux qui le désirent.
Voilà, c'était donc le président élu de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, au micro de Pascaline Magalé.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Le recensement des étrangers résidant au Burundi a débuté hier mardi et va se clôturer le 30 avril prochain. Pour le porte-parole de la police burundaise, cette mesure pourra s'étendre à tous les Burundais pour que tous les résidents puissent avoir une carte biométrique. Certains résidents étrangers comprennent cette mesure gouvernementale, mais certains se posent des questions. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza, notre correspondant.
Une programmation est déjà connue pour faire le recensement de tous les étrangers résidant en Bujumbura ou sur les collines du Burundi profond. Africains, asiatiques, européens, américains ou autres ont jusqu'au 30 avril pour se faire enregistrer auprès des autorités de la police de l'air et des frontières. Porte-parole de la police, Pierre Mourouquillet, donne les raisons qui ont poussé les autorités de chercher une carte biométrique pour les étrangers vivant aujourd'hui au Burundi alors que les Burundais n'en ont pas.
Une carte biométrique pour les étrangers parce que c'est un document à la mode, c'est un document qui est difficilement falsifiable. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Si maintenant la carte biométrique c'est pour cette catégorie, d'autres catégories vont suivre. Et je pense que, in fine, tout le monde aura sa carte d'identité biométrique dans son pays.
Le porte-parole de la police estime que la carte biométrique renforce nécessairement la sécurité. Pierre Mourouquillet.
Et ça permet aussi de contrôler, de suivre le mouvement des personnes et des biens. Parmi ces personnes, il peut y avoir des criminels. Je pense que c'est aussi un bon moyen pour aussi assurer la sécurité.
Pour ceux qui affirment que cette mesure est prise pour faire une traque des étrangers, surtout rwandais, le porte-parole de la police tranquillise.
Nous demandons à tout le monde de se conformer à la loi. C'est l'exigence qui se trouve dans tous les pays.
Ce père de 5 enfants vit au Burundi depuis une vingtaine d'années. Il affirme que recenser les étrangers peut aider énormément les autorités de Bujumbura.
C'est du droit de chaque pays de connaître les étrangers qui vivent là-bas.
Cette autre femme, la cinquantaine, qui vient de passer des décades au Burundi, comprend la mesure gouvernementale, mais se pose énormément de questions.
On est en train de se poser mille et une questions, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour demander aux gens de partir ou comment? Alors, on ne comprend pas.
D'autres Burundais qui ont requis l'anonymat affirment que cette mesure va renforcer la traque des étrangers qui ne voient pas d'un bon oeil la gouvernance de ce pays de plus de 10 millions d'habitants. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Bénin, la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, a pris des mesures pour réguler la couverture de la campagne électorale et de la présidentielle de dimanche prochain. Certaines mesures font grincer les dents au sein de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Il s'agit surtout de l'imposition du français dans le face-à-face entre les candidats et les journalistes sur les médias publics, mais aussi l'interdiction de retransmission des résultats avant la fin du décompte des voix dans les bureaux de vote. Pour une clarification, Eric Manirakiza a joint à Cotonou Franck Kpotiemen. Il est président de l'Union des professionnels des médias du Bénin.
Nous avons programmé des entretiens avec des journalistes et à la télévision et des entretiens de 15 minutes dans les langues de leur choix, à la radio ou chaque candidat. En plus, nous avons programmé 12 reportages par candidat parce qu'il y en a 33 pour toute la campagne. Et enfin, nous avons pris les dispositions pour que, au niveau national, au plan national, nous avons mis des auditeurs qui sont des gens qui ne sont pas connus de tous et qui suivent toutes les radios, toutes les télévisions et les journaux pour éviter les dérapages, les attaques personnelles, les injures, de toute façon, tout ce qui peut amener à des conflits.
Les journalistes sont tenus de préciser la source. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont autorisés à relayer les résultats depuis les bureaux de vote?
Tout à fait, puisque il est dit que tant que le dernier bureau de vote n'est pas fermé dans la zone où ils sont, ils ne peuvent pas relayer les résultats. Donc ces résultats, normalement, devraient découler des résultats affichés. Donc au moins ça, c'est une source crédible. Et c'est la Sénat qui va publier. Mais avant, si quelqu'un veut publier, il faut qu'il dise la source ou qu'on sache d'où il a eu ce résultat.
Quel est le programme qui doit être diffusé seulement en français?
Je dis l'intervention, le débat que le candidat est en train de faire avec les journalistes, puisqu'ils ont tiré deux journalistes au sort. Et l'entretien, le débat que le candidat fait sur son programme de société avec les deux journalistes, c'est en français. La langue officielle.
Pour d'autres programmes, la langue locale est permise.
Tout à fait.
Voilà, c'était donc le journaliste Franck Pochemin, joint à Cotonou.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Au Niger, le second tour de la présidentielle est prévu le 20 mars prochain. Il va opposer le président sortant Issoufou Mahamadou à Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est gardé en prison depuis novembre 2015 dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de bébés. La campagne s'ouvre en principe le week-end prochain et il est attendu lors de celle-ci un face-à-face entre les deux candidats. Comment cela va se passer? C'est la grosse interrogation pour beaucoup de Nigériens. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le débat radio-télévisé entre les deux candidats est prévu par l'organe de régulation des médias, le Conseil supérieur de la communication, dans l'une des décisions qu'il a prises pour organiser un accès équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics à l'occasion des élections générales de 2016. Contacté par VOA Afrique, le secrétariat du Conseil supérieur de la communication indique qu'à cette date, seuls deux candidats se sont engagés formellement à prendre part à ce débat et ce ne sont malheureusement pas les deux qui sont arrivés en tête. Pourtant, au soir de la proclamation des résultats du premier tour, des partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, ont clairement indiqué que, passé cette étape, leur rêve était maintenant de voir leur leader en face du président sortant pour ce grand débat. Des sources proches du parti politique indiquent même qu'une correspondance d'accord pour le débat a été envoyée au Conseil supérieur de la communication. Seulement, même si Hama Amadou s'engageait pour ce débat, il lui sera difficile au vu de sa situation de prisonnier qui ne lui a d'ailleurs pas permis de présenter son programme aux électeurs comme les 14 autres candidats du premier tour sur les médias publics. Arrivé par trois fois à un second tour d'une élection présidentielle au Niger, le candidat Issoufou Mahamadou s'est toujours engagé sans succès pour ce débat. Le fera-t-il cette année? Les jours prochains nous édifieront. Dans tous les cas, la décision du Conseil supérieur de la communication qui prévoit ce face-à-face indique qu'en cas de désistement volontaire d'un candidat, il est accordé à son challenger un entretien de 45 minutes. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Voilà, direction la France à présent, à Calais, dans le nord de la France. Donc, le démantèlement de la partie sud du bidonville a démarré depuis lundi. Dans cette jungle, comme on l'appelle, étaient en transit pas moins de 4000 migrants dont le rêve est de vivre en Angleterre. Mélisse Hegel a joint Amine Trouvé-Bakdouche. Il est coordonnateur général de Médecins du Monde pour le littoral nord, Pas-de-Calais.
Contrairement à ce qu'avait dit l'État, ça s'est passé avec des heurts et des violences. Et, il y avait un grand nombre de forces de l'ordre. Ça a dégénéré dans des rapports de force avec et des réfugiés et des personnes qui soutenaient les réfugiés. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que, contrairement à ce qui avait été dit officiellement, c'est qu'on n'a pas seulement démantelé des tentes où il n'y avait pas d'habitants, mais a priori, des tentes qui étaient bel et bien habitées et où on a demandé aux gens de sortir. Et ensuite, on a détruit leur habitation.
Donc c'est toute la partie sud, c'est ça qui a été détruite ou carrément tout, toute la jungle?
Non, c'est juste un morceau. Alors, ils ne démantèlent pas tout d'un coup, mais l'idée c'était qu'ils prennent du temps pour expliquer aux gens, les orienter, etc. Ce que Médecins du Monde avait demandé, leur faire des propositions, mais on est plutôt sur des parcelles. Donc hier, il y avait a priori 250 mètres carrés qui étaient ciblés de la partie extrême sud du camp. Donc je pense qu'il y a plutôt une tactique de démolition parcellaire sans chercher à comprendre si des gens continuent à y habiter ou pas. L'idée étant qu'on démantèle au coup par coup, par parcelle, pour pas pouvoir faire tout d'un coup. L'objectif est de démanteler l'ensemble du camp. Le problème étant, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui encore de réponse sérieuse pour l'ensemble de la population qui habite l'ensemble du sud de ce camp. Et lorsqu'on parle du sud, en fait, il s'agit des trois quarts du bidonville.
Dans quel état d'esprit sont les migrants et où est-ce qu'ils vont aller maintenant?
Il y a ceux qui sont effectivement extrêmement remontés après les violences. Par exemple, il y a eu près de 300 mineurs isolés étrangers, donc qui ne sont absolument pas accompagnés par des adultes, se sont mis à se confronter avec les forces de l'ordre. Donc il y a eu des gazages, etc., sur des mineurs. Ceux qui ne seront pas mis dans les CAO, centres d'accueil et d'orientation qui sont répartis plus ou moins sur toute la France, sachant que pour certains sont dans des endroits complètement isolés de la France. Les gens qui se retrouvent à ces endroits-là assez rapidement font demi-tour pour revenir sur Calais. Certains ont été dans d'autres camps dans la région et puis ils vont se retrouver dispersés, des nouveaux foyers de squat sur l'ensemble de la zone du littoral.
Pourquoi est-ce que les migrants ne veulent pas aller dans les centres d'accueil prévus pour eux?
Alors, vu le contexte dans lequel aujourd'hui ils sont entre guillemets accueillis sur cette zone de la France, je vois pas ce qui les inviterait à penser qu'il serait bien resté pour eux en France.
Pourquoi est-ce qu'ils veulent autant aller en Angleterre?
Ce sont des réfugiés qui viennent de pays anglophones, ont une histoire avec elles, parfois une histoire coloniale d'ailleurs, mais en tout cas aussi une histoire plus contemporaine avec des conflits armés dans leur propre pays. Donc il y a une histoire à l'objectif d'atteindre certains pays. Pourquoi aujourd'hui la France et l'Europe n'acceptent pas de considérer que nous avons des réfugiés de guerre, qu'il faut les prendre en charge?
Voilà, c'était donc Amine Trouvé-Bakdouche. Il est coordonnateur général de Médecins sans frontières pour le littoral au nord, Pas-de-Calais, en France.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, International Music, Comedy, Country Music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est tout donc pour cette édition matinale. Michel Joseph était à la réalisation. John Allison à la console technique. Présentation Bagassi Courant. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et aussi grâce à notre page Facebook. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.